Texte, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2 et au verset 12. L'Épître aux Romains, le chapitre 2 et le verset 12. Je rappelle qu'il y a une garderie pour les tout-petits et vous pouvez y amener vos enfants. Romains chapitre 2, verset 12. Voilà ce qui est écrit. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Voilà, et je veux, si vous voulez bien, m'attarder plus particulièrement sur le verset 15, où il est dit que l'œuvre de la loi divine, est écrite dans le cœur des hommes, leur conscience en rendant témoignage, leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Voilà, je voudrais vous parler ce matin de la conscience. De la conscience. Vivre avec sa conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est cette capacité que possède l'être humain, qui lui a été donnée par Dieu, bien sûr, capacité qui consiste à porter lui-même, en tant qu'homme ou femme, des jugements sur la valeur morale de ses propres actes. Voilà. La conscience, c'est ce qui en nous, en chacun de nous, nous dit tu fais bien ou alors tu fais mal. Tu fais bien ou tu fais mal. Et c'est une réalité universelle, ainsi que nous l'apprend, ou nous le rappelle, tout au moins le texte que nous venons de lire, quel que soit l'origine, quelle que soit la culture, quelle que soit même la religion, chaque être humain, chaque homme ou femme sur cette terre possède une conscience. Vous et moi, et tous les autres aussi, croyants ou pas, ayant une religion, quelle qu'elle soit, ou se réclamant de l'athéisme, nous avons une conscience. C'est vrai aussi, il faut le préciser, que le fonctionnement de cette conscience peut être altéré par diverses raisons, et nous aurons certainement au cours de notre réflexion l'occasion d'aborder ces points. Tant que nous sommes loin du Seigneur, voyez-vous, tant que Jésus n'est pas devenu notre sauveur, tant que, à l'écoute de la parole de Dieu, nous n'avons pas encore accepté, reçu la grâce, notre conscience n'est pas totalement morte. Non, ce serait en contradiction avec le texte que nous venons de lire. Mais nous pourrions dire qu'en quelque sorte, elle est comme anesthésiée, vous voyez, elle est comme endormie, assoupie. La parole de Dieu, dans la première épître à Timothée, au chapitre 4, au verset 2, nous dit que, pour certains, leur conscience est porte la marque de la flétrissure. Une autre traduction du même verset dit qu'ils ont une conscience marquée au fer rouge, les hommes qui vivent dans le péché. C'est-à-dire une conscience en quelque sorte cautérisée et en grande partie devenue insensible. Et le premier élément qui nous conduit à la conversion, c'est justement quand Dieu réveille notre conscience. Voilà. Il nous convainc de pécher pour ce faire, par son esprit, qui rend la parole de Dieu agissante dans notre cœur. Voilà. Jésus dira dans l'évangile de Jean, je pense que vous connaissez ce verset, vous qui êtes de fidèles et assidus lecteurs de la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, le Seigneur dira, voilà, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et je pense que la plupart, sinon la totalité d'entre nous, nous avons expérimenté ça. Lorsque nous nous sommes convertis, le Seigneur a mis l'emphase sur ce que nous n'avions pas su discerner ou que nous ne voulions pas comprendre jusqu'à présent, la réalité, l'horreur de notre péché. Et nous avons pris conscience, c'est le cas de le dire, que nous avions de toutes sortes de manières et de façons offensé Dieu, que nous étions bien loin de lui, réalisant le mal dont nous nous étions rendus coupables, les péchés que nous avions commis, et nous avons réalisé que nous avons profondément offensé le Seigneur, nous l'avons affligé. Voilà. C'est ce qui s'est passé pour certains personnages dans l'Écriture. On voit par exemple Ésaïe, le prophète. Voyez, lorsqu'il a la vision de la gloire de Dieu, je vis le Seigneur assis sur son trône dans le temple et devant la révélation de la sainteté, de la majesté, de la perfection morale du Tout-Puissant, Ésaïe prend conscience qu'il est un pécheur et il s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, les armées ». Il s'écroule, là il est complètement brisé par la révélation de son péché. La même chose avec Pierre dans le Nouveau Testament, lors, souvenez-vous, du miracle de la pêche, justement miraculeuse, tout à coup Pierre réalise que dans sa barque, là, dans son petit bateau, se tient à quelques pas de lui, à quelques mètres de lui, le Seigneur de l'univers, le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Et là encore, il s'écroule en disant « Retire-toi de moi car je suis un homme pécheur ». Voilà, il vient de prendre conscience qu'il a offensé Dieu et on pourrait multiplier les exemples. Je n'en citerai plus qu'un, rappelez-vous encore, le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, pourtant sa prédication, je dirais qu'elle était ordinaire, vous voyez, il n'y a pas eu de grands élans oratoires, il n'y a pas eu de mots compliqués, savants. C'était pas de la haute théologie, non, c'était l'évangile de Jésus-Christ. Et il est dit que quand ils eurent entendu ce discours, eh bien ces gens-là eurent le cœur vivement touché. Le texte littéral dit « ils furent transpercés au cœur ». L'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, rendue agissante par le Saint-Esprit dont Pierre venait d'être rempli, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, les a traversés de part en part, ils ont senti leur misère et se sont écriés, enfer, que ferons-nous? Et Pierre n'a eu qu'à conclure sa prédication en disant, ben repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est important, c'est comme ça qu'on se convertit, il faut que la conscience soit touchée, il faut que la conscience soit atteinte. Et quand ça se produit, eh bien c'est vrai, nous expérimentons ce que la Bible appelle la tristesse selon Dieu. Parce que mes amis, avant de nous réjouir, il faut que Dieu nous attriste. Avant de connaître la joie du salut, et béni soit Dieu pour la joie du salut, la joie d'avoir reçu le pardon de ses péchés, il faut connaître la douleur, la tristesse, je dirais même les affres de la repentance. La tristesse selon Dieu, nous prenons conscience de notre état, nous en sommes bouleversés, le péché dans lequel nous avons vécu jusque-là nous fait horreur, nous nous en affligeons, et l'Écriture dit que cette tristesse selon Dieu, elle produit une repentance en vue du salut, béni soit Dieu. Alors nous nous humilions devant lui, nous lui confessons notre état, notre condition de pécheur qui mérite condamnation, nous implorons son pardon quant à nos péché. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui n'est pas encore passé par là, faites-le sans tarder. Laissez Dieu, par sa parole, atteindre votre cœur. Réveillez votre conscience. Réalisez que vous êtes passible du jugement, de la condamnation divine, du fait de vos péchés. mais réalisez aussi que Dieu vous aime et que dans son amour, il veut vous sauver. Parce que la repentance sincère, authentique, doit s'associer à la foi dans la valeur du sacrifice de Jésus. Et gloire à Dieu, ce sacrifice, il est parfaitement efficace, amen, pour ôter les souillures morales, pour procurer la purification de nos fautes et pour nous permettre, par pure grâce de la part de Dieu, de recevoir un complet pardon. Voilà, c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit dans le chapitre 9 et le verset 11. Voilà, je lis pour vous le texte. Il est écrit ceci, Hébreux chapitre 9, verset 11. Attendez voir. Commis une erreur là. Où c'est ça? 9, 11, oui c'est ça. 9, verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache, ça c'était dans l'Ancien Testament, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair. Écoutez ça. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus purifie la conscience. Alléluia. Voyez, lorsque le sang est appliqué sur le péché de l'homme, il a la capacité, il a le pouvoir de l'effacer, de l'éliminer, de le faire disparaître, de l'anéantir, de le couvrir, de le purifier, de telle sorte que quand on a reçu cette grâce par la foi, eh bien, il n'y a plus lieu de cultiver le remords. Amen. Alléluia. Vous voyez, il y a trop de chrétiens parfois qui vivent avec le remords des choses du passé. Non, ne laissez pas de prise à l'accusateur. L'Écriture dit, ils l'ont vaincu, l'accusateur des frères. L'accusateur des frères, c'est aussi l'accusateur des sœurs. Hein. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ce matin, si le diable vous reproche votre passé, eh bien, proclamez que le sang de Jésus est passé par là. Et que tout a été effacé, et Dieu a fait grâce, et votre conscience, elle est pure, elle est nette. Ainsi, voyez, désormais, dès qu'on s'est converti, notre conscience est éclairée, elle est purifiée, elle est en harmonie avec la volonté de Dieu, nous recevons ce que nous pouvons appeler une bonne conscience. Alors, une conscience éclairée, vive, devenue sensible, nous permet maintenant d'avoir une juste notion du bien et du mal. Avant, c'était un peu flou. Avant, c'était un petit peu perturbé. Mais désormais, puisque le Seigneur, par son sang précieux, est passé par là, n'est-ce pas ? Eh bien, nous avons reçu une conscience éclairé, c'est ce que Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 1 verset 18, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » En gardant la foi et une bonne conscience. Et cette conscience aiguë, cette bonne conscience, nous incite à concevoir désormais la crainte de Dieu. Je crois à la nécessité d'avoir la crainte de Dieu. Vous croyez ça? Il y a des gens qui disent, ah non, ça c'est pour l'Ancien Testament. Quand Dieu est descendu sur le Sinaï, le peuple dans la plaine a tremblé de peur. Mais aujourd'hui, en Jésus, ta-ra-ti-ta-ta-ta, c'est vrai que nous avons une grande liberté devant le Seigneur, par sa grâce. Mais il y a aussi place pour nous, croyants, en Jésus, pour nous disciples de Jésus, pour la crainte de Dieu. L'Écriture dit quelque part que nous devons le servir avec crainte et tremblement. C'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et la crainte de Dieu, c'est ce saint respect de sa personne, ce désir de ne pas l'offenser. Le livre des Proverbes dira que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alors, un chrétien qui a une bonne conscience, une conscience saine, une conscience en bon état de fonctionnement, il ne peut plus, je dis, il ne peut plus tolérer le péché dans sa vie. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Il ne peut plus flirter avec le mal. Il doit, le chrétien, s'en séparer, s'en éloigner, le débusquer en lui-même, afin de l'éliminer systématiquement, le mal, le péché, toutes les fois où il voudrait s'introduire à nouveau dans sa vie, grâce au secours de Dieu. Amen. Cette conscience éclairée nous rend capable de résister victorieusement à la tentation. Voilà, tant que vous êtes sur la terre, vous ne faites pas d'illusions, vous serez tenté. Il faut faire avec. Même Jésus, nous dit la Bible, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans cependant commettre de péché. Et c'est cette conscience éclairée qui nous, je le répète, permet de résister victorieusement à la tentation qui ne manquera pas de surgir dans toutes sortes d'occasions. Vous voyez, quand on est sollicité, et Dieu sait qu'on l'est, amorcé par le mal, quelque chose en nous, chrétiens, si tant est que nous soyons d'authentiques chrétiens, nous retient notre conscience. Oui ou non? C'est comme ça que ça marche? Et si ce n'est pas comme ça, il y a du souci à se faire, mes amis. C'est sa conscience qui a retenu Joseph, vous savez, quand cette espèce de, j'allais dire, de bonne femme, là, hein, lui a fait des propositions mauvaises. Personne n'aurait su, personne n'aurait vu, mais Joseph dira, comment pécherais-je contre l'Éternel et commettrais-je un aussi grand mal? Pas possible, inconcevable, je suis un croyant. J'ai mis ma foi en Dieu, et encore lui vivait dans l'Ancien Testament, mais pour lui, voyez, eh bien c'était ferme et résolu. Sa conscience lui disait non. Un refus définitif, constant, absolu de s'abandonner au mal. Alors il y a l'histoire de Joseph, mais il y a votre vie et la mienne. Et il y a tant d'occasions, c'est pas vrai, de se laisser corrompre aujourd'hui, dans toutes sortes de domaines. Sur le plan de la pureté morale dont je viens de parler, mais aussi dans le domaine des affaires, dans le domaine du travail, c'est pas vrai? On nous propose à chaque pas de tricher, de magouiller, de biaiser un petit peu avec la loi, de chercher des arrangements pour esquiver ceci, esquiver cela. Et mes amis, quand on a une conscience de chrétien, une bonne conscience et qu'on veut la conserver, il vaut mieux perdre 4 sous que perdre sa bonne conscience. Et alors on dit, non, je sais, les gens vont ouvrir des yeux comme ça en disant comment, il est bizarre celui-là, hein? Mais ça fait rien, mes amis. Il faut se préoccuper de recevoir l'approbation de Dieu et pas celle des hommes. Vous direz, frère, mais vous vivez sur une autre planète, vous, hein? C'est pas possible. Si vous saviez, je sais, mais Dieu sait aussi. Et mes amis, la parole de Dieu, elle est invariable. Voilà. Hein? Par exemple, l'Écriture dit que personne n'use de fraude ou de cupidité envers son frère dans les affaires. Car Dieu tire vengeance de toutes ces choses. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans les Thessaloniciens. Dans les études, je me souviens de ce temps où, eh bien, j'étais pas très honnête sur cette affaire. Vous voyez, dans le cours de mes études, eh bien, je me permettais, alors que j'étais chrétien, je le dis à ma honte, quelques tricheries. Jusqu'à ce que Dieu me dise, oh, mon gars, t'es chrétien ou pas? Enfin, j'ai pas entendu de voix. Mais là, dans ma conscience, quelque chose s'est passé. Et j'ai dit, non, Seigneur, c'est fini, par ta grâce. Alors, les collègues, ils étaient copains. Ils étaient formidables, les copains. Hein? Lorsque dans un devoir de mathématiques, je trouvais pas la solution, ils me refilaient sous le nez la réponse. C'était tellement tentant de jeter juste un coup d'œil. Mais j'écartais la feuille. Il devait dire, il est fou, Ray, complètement fou. C'est la folie de Dieu, mes amis, ça. Et je vous, dois vous dire que pour autant, ça ne m'a pas porté préjudice. Dieu m'a fait grâce, il a eu pitié de moi, il a touché le cœur de professeur, et puis voilà. Parce que Dieu est bon, alléluia. N'est-ce pas? Parce que l'Écriture dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Faites-en l'expérience. Ça marche. Parce que Dieu est fidèle. Et il ne faut pas laisser notre conscience être corrompue. Veillons à maintenir, à conserver cette bonne conscience. Quand le Saint-Esprit nous révèle que dans tel ou tel domaine nous avons failli, nous avons transgressé la loi divine, nous avons péché, il faut s'en humilier sans repentir, sans tarder. Paul dira qu'il s'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et vous savez, la repentance ne consiste pas, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète encore, il faut taper sur ce clou. Il ne s'agit pas seulement d'avouer les fautes, mais il s'agit de renoncer au mal, de le fuir, de le rejeter, de l'abandonner. Regardez ce texte capital, à mon avis, qui se trouve dans le deuxième livre des Chroniques. Voilà, au chapitre 7 et au verset 14. Si vous avez l'habitude de souligner les versets bibliques dans votre Bible, vous pouvez souligner celui-là en rouge. Le Seigneur dit ceci, « Si mon peuple, il ne s'agit pas des païens là, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Vous dites amen? Vous voyez? Le Seigneur ne dit pas seulement si mon peuple s'humilie, mais s'il abandonne ses mauvaises voies, s'il renonce à la pratique du mal sous toutes ses formes, alors je lui pardonnerai son péché, j'exaucerai ses prières, je guérirai son pays. C'est ainsi que l'on conserve une bonne conscience, mes amis, en vivant d'après de tels principes. C'est aussi certainement, je le crois, le chemin du réveil pour l'Église. Quand nous en serons là, tous là, alors, mes amis, certainement, eh bien, que des choses bien plus grandes nous pourrons vivre par la grâce de Dieu. Il est dangereux de faire taire, d'étouffer notre conscience quand elle nous interpelle. David, après son terrible péché, a essayé de le faire pendant un bon moment, certainement pendant des mois, environ une année, quelque chose comme cela, n'est-ce pas? Et voici ce qu'il dira. « Tant que je me suis tu, psaume 32, verset 3, « tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Voilà la condition, voilà l'état d'un croyant, car David était un croyant, qui essaie de tordre le cou à sa conscience. Il a péché, mais il ne veut pas se repentir, s'humilier. Il fait la forte tête. Il résiste à l'appel divin. Alors, intérieurement, eh bien, ça ne va pas. Mais ça ne va pas du tout. Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Oh, si vous vous étiez approché de David, vous ne l'auriez pas entendu gémir. Mais son âme au-dedans de lui gémissait, gémissait. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Parce que nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Il y avait un poids sur son cœur, sur sa conscience. Il était malheureux, comme c'est pas possible de l'être. Et c'est ce qui arrive quand on lutte avec sa conscience, qu'on essaie de l'étouffer, de la faire taire lorsque elle nous interpelle. Dieu, dans sa grâce, pour David, a crevé l'abcès. Hein? Le prophète Nathan est venu vers lui, lui a révélé son péché, béni soit Dieu. David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et il a pu cesser de s'endurcir et il a rédigé ce magnifique psaume 51 dans lequel il se repent, Et de cette repentance profonde, il éprouve un grand soulagement. Parce que dans le psaume 32, où nous venons de lire, il est dit ceci, au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, enfin, après des mois et des mois et des mois de tourments intérieurs, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Instantanément, la paix de Dieu est revenue dans son âme. Sa conscience venait d'être libérée, purifiée, voyez ? Et c'est une bénédiction. Si ce matin, Dieu s'adresse à la conscience de l'un d'entre nous ou de quelques-uns d'entre nous, si votre conscience vous interpelle, si le Saint-Esprit la travaille en vous convainquant que dans tel ou tel domaine, vous avez offensé Dieu, peut-être personne ne le sait, ni même ne le soupçonne. Je vous en supplie, repentez-vous et humiliez-vous. C'est l'apôtre Jacques qui abordera cette question dans le chapitre 4 de son épître. Voici ce qu'il dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Avant d'être élevé, il faut s'abaisser. Celui qui s'élève, il est abaissé. Celui qui s'abaisse, il sera élevé, nous dit la parole de Dieu. Et c'est cela qu'il faut faire. Repentez-vous, humiliez-vous, mettez un terme à la pratique de votre péché. Demandez le secours de Dieu. Et lorsque vous aurez fait ainsi, croyez à sa miséricorde. Amen. Parce que l'Écriture dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Et vous retrouverez la joie du salut. David avait perdu la joie du salut dans le psaume 51. Il s'écrit, « Rends-moi la joie de ton salut !» S'il demande à Dieu de la lui rendre, c'est qu'il l'avait perdue pendant ces longs mois où il avait étouffé sa conscience. Mais cette joie du salut, de la libération intérieure, de pouvoir à nouveau être en communion avec Dieu, de savoir que l'obstacle a été ôté, qu'il n'y a plus d'ombre, n'est-ce pas ? Lui permet de goûter à nouveau à la bonne présence du Seigneur et d'en être tout réjoui. Vous savez, c'est tout à fait dommageable de persister à résister à l'appel de Dieu. L'Écriture dit, c'est un verset connu aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Être chrétien ne consiste pas, ça a déjà été dit, à venir occuper un siège le dimanche matin. C'est bien plus que ça. Être chrétien, ce n'est pas seulement écouter, plus ou moins distraitement, la prédication dominicale. Nous sommes là au cœur du vrai christianisme. Certains ont endurci leur cœur. Et l'Écriture dit dans l'Épître à Timothée, ils ont perdu leur bonne conscience. Et l'apôtre ajoute, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est affreux le naufrage. C'est terrible. Hein? Je crois avoir dit ça là ces jours-ci. Lorsque nous étions à Bayonne, une sœur dont le mari était policier maritime nous disait que quelques années avant que nous arrivions dans la région, il y avait eu un naufrage. Un bateau a manqué l'entrée du port. Et il s'est fracassé sur les rochers. Alors bien sûr, il y a des secours qui sont arrivés, mais il y avait la tempête. C'était dangereux même de tenter d'aller le secourir. Et cette sœur disait, on était là, sur le bord, sur la plage, on entendait ces hommes hurler de terreur, parce qu'ils allaient mourir dans ce naufrage. Mes amis, c'est terrible quand c'est un naufrage au sens littéral. C'est encore plus terrible quand il y a naufrage par rapport à la foi. Quand des hommes, des femmes qui ont goûté au bienfait de Dieu endurcissent leur conscience au point qu'ils font naufrage par rapport à la foi. Moi, je supplie le Seigneur, vous savez, parce que je ne suis pas à l'abri. Hein. Je suis comme vous. Ce n'est pas parce qu'il y a trois marches là que je suis supérieur. Avant d'être un prédicateur, je suis un chrétien, disciple de Jésus. Et je supplie Dieu de me faire grâce, parce que j'en ai trop vu, et mon cœur saigne à leur sujet, trop vu qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Je ne voudrais pas être de ceux-là. Que mon cœur ne s'endurcisse pas à l'extrême. Seigneur, s'il le faut, use de la rigueur qui est nécessaire pour briser mon endurcissement. J'en ai besoin. Pharaon, il est dit, il endurcit son cœur. Vous avez remarqué? Lisez son histoire. À plusieurs reprises, il est dit, Pharaon endurcit son cœur. Pharaon endurcit son cœur. Pharaon endurcit son cœur. Et dans un deuxième temps, il est dit, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Il avait atteint ce que je pourrais appeler le point du non-retour. Eh ouais, pareil avec Judas. Judas qui a trahi Jésus, qui l'a vendu, vous le savez. Ah, pourtant, à un moment, il a dit, j'ai péché, hein, livrant le sang innocent. Il a eu du remords. Mais il n'y a pas eu de véritable repentance, parce que son cœur n'y était plus accessible. Vous savez, on ne se repent pas quand on veut. La repentance ne dépend pas uniquement de notre bon vouloir. L'Écriture dit que c'est un don de Dieu. Un don de Dieu. La bonté de Dieu, dira l'Épître aux Romains, te pousse à la repentance. Il faut donc se repentir pendant que Dieu nous en donne l'occasion, nous en donne la possibilité. Il est vrai qu'il use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais cette patience divine, il ne faut pas la lasser, mais il faut la mettre à profit pour se repentir toutes les fois où c'est nécessaire. Alors que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. On va prendre le repas du Seigneur. Pensez à ces choses-là. Pensez à ces choses-là. Comme disait un prédicateur qui est aujourd'hui auprès du Seigneur, le sang de Christ, c'est pas une lessive. Ça coûte pas cher, la lessive. Hein? Mais le sang de Jésus, s'il est vrai qu'il purifie de tout péché, ça représente sa vie parfaite offerte en sacrifice. Et toutes les fois où tu implores la miséricorde de Dieu, tu dois le faire en réalisant que c'est vrai. Un prix a été payé pour que le pardon soit possible, accessible, à portée de main. La grâce est là ce matin. La grâce de Dieu, c'est formidable. La grâce de Dieu. Le plus indigne des pécheurs peut être l'objet de sa grâce et de sa miséricorde. Même un chrétien qui s'est profondément fourvoyé, il peut être purifié, lavé, pardonné, retrouvé sa complète dignité par le sang de Jésus. Mais il ne faut pas endurcir son cœur. On ne joue pas avec Dieu. La Sainte-Cène, ce n'est pas un épouvantail. C'est une occasion de rendre grâce à Dieu. Certains l'appellent l'Eucharistie. L'Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Ok, mais quand même, il est précisé, c'est un texte qu'on lit si souvent, à force, vous voyez, ça fait partie de nos us et coutumes, de nos habitudes, de nos traditions, on n'y prend plus trop garde des fois. Mais il est écrit que celui qui prend le repas du Seigneur, qui y participe, sans distinguer le corps et le sang du Seigneur, sans avoir conscience, tenez justement, de la réalité du sacrifice de Jésus, c'est pas une bénédiction qu'il prend, c'est un jugement contre lui-même. Alors ce matin, on ne veut pas prendre un jugement. Mais on veut participer à la coupe de bénédiction. Amen. Dieu nous aime et il veut nous bénir. Et il faut qu'il nous fasse grâce. Il faut qu'il nous fasse grâce. Voyez, moi je tremble à l'égard de ceux qui endurcissent leur conscience. Qui, d'un revers de main, mais c'est pas grave, il n'y a rien qui est grave. Oh, c'est une babiole. Pensez-vous que ce soit une babiole? Mes amis, Dieu est saint. Très saint. Ésaïe, quand il a vu là le Seigneur sur son trône et les anges qui se répondaient, les séraphins l'un à l'autre, saint, 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 et l'Éternel, désormais toute la terre est pleine de sa gloire, il s'est écroulé face contre terre. Seigneur, donne-nous cette révélation de la sainteté de Dieu. Que notre conscience en soit marquée d'une manière authentique. Qu'il y ait cette estampille divine là dans notre cœur. Notre conscience soit sensibilisée aux choses de Dieu. J'avais prévu de vous parler d'autre chose. Mais je crois que on en restera là. On va se placer devant Dieu maintenant. On va participer à ce repas commémoratif. L'important, vous le savez, c'est pas le décorum, même si c'est très bien fait, là, la nappe, tout le reste, merci à ceux qui l'ont préparé. Mais ce qui donne du sens à ce que nous allons faire, c'est que nous réalisons que Christ a souffert pour que moi je vive. Il a porté mon péché. Pas seulement les gros péchés, si tant est qu'il y en ait qui soient plus gros que les autres, mais mon péché. Et devant cette table, devant ce pain qui me rappelle son corps brisé, ce vin qui me rappelle son sang versé, je veux dire, purifie-moi. Et je veux dire, aide-moi. Je choisis de renoncer au mal et de faire ta volonté. Et si je m'en sens bien, bien incapable, je veux compter sur ta grâce pour que tu crains-moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, donne-nous d'avoir, ou peut-être de retrouver, une bonne conscience, purifiée des œuvres mortes par le sang de Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Notre Père,